Bonne année à vous tous. Aujourd'hui, nous arrivons au début d'une nouvelle année. 2016, c'est déjà terminé. Je sais que je cite une évidence, n'est-ce pas? Mais en regardant cette assemblée ce soir, je constate que vous n'êtes pas plus jeune ni plus beau que l'année dernière, malheureusement. Je constate que vous tous, à part quelques exceptions peut-être, vous n'êtes pas plus riche ni plus intelligent que l'année dernière. Un an de plus, et qu'est-ce qu'on a gagné finalement? Qu'est-ce qu'on a gagné? Peut-être que vous êtes content de l'année passée, peut-être vous voulez revivre les bons moments de cette année-là, ou peut-être que c'était une des pires années de votre vie, finalement. Une année que vous aimeriez oublier dès que possible. Peut-être que vous avez des regrets, ou c'est possible que vous avez déjà oublié 2016 et que vous avez hâte de voir ce que 2017 va vous offrir. Vous êtes peut-être optimiste pour cette année-ci. Vous avez fait des résolutions que vous ne tiendrez pas longtemps, bien sûr. Nous connaissons tous comment ça marche. Mais peut-être que vous êtes optimiste quand même. Alors, quelle que soit notre attitude envers notre vie en ce moment, je crois que nous avons tous réfléchi à un moment ou à un autre à des questions existentielles, des questions importantes sur le sens de cette vie. Je vous propose aujourd'hui qu'on prenne un moment de réfléchir de plus sur ces questions existentielles, le sens de la vie, avec l'aide de la Bible bien sûr, et en particulier le psaume 90. Donc on va lire le psaume 90 ce soir. C'est une prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand ils passent, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent, décline par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans, et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs, et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Je vous invite à la prière. Seigneur, éclaire le chemin devant nous par la lumière de ta parole ce soir. Accorde-nous de te connaître mieux par cette étude, de mettre en pratique ce que nous apprenons de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Ce psaume de Moïse nous présente de mauvaises nouvelles et de bonnes nouvelles concernant notre passé, concernant notre avenir. Mais surtout, tout en soulignant la brièveté de la vie, ce texte nous rappelle que notre vie a aussi une importance éternelle. Et ça, c'est très important à remarquer dans ce texte. Notre vie a une importance éternelle. Ce psaume est attribué à Moïse, qui a conduit le peuple de Dieu pendant leur exode depuis l'Égypte. Vous pouvez trouver cette histoire dans le livre d'Exode dans l'Ancien Testament. Moïse est celui à qui Dieu a révélé sa loi. C'est Moïse qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque ou la Torah. Moïse était un prince d'Égypte, élevé dans le palais de Pharaon, mais il faisait aussi partie du peuple d'Israël. Il était juif. Il a été chassé d'Égypte après avoir tué un Égyptien. Il a été appelé par Dieu à libérer les Israélites de leur esclavage. Il a vu la grâce de Dieu dans la délivrance de son peuple. Il a vu le jugement aussi de Dieu contre ce même peuple quand ils ont rejeté Dieu encore et encore par leur rébellion dans le désert. Moïse himself a fait l'expérience du jugement de Dieu par sa propre désobéissance. Il a été empêché par conséquent d'entrer dans la terre promise. Moïse a vu des bonnes choses et des mauvaises. Il a sûrement vécu des bonnes années et des mauvaises années. Alors, on ne sait pas à quel moment de la vie de Moïse Dieu a inspiré ce texte, ce psaume. Mais on voit dans ce psaume l'honnêteté d'un homme qui constate la vanité de la vie dans le désert pendant ses 40 ans, qui s'appuie sur les promesses de Dieu pour situer correctement sa vie et pour comprendre que la vie présente a une importance éternelle. La vie présente a une importance éternelle. La première chose que Moïse fait pour situer correctement la vie humaine, tout bien pesé, c'est de mettre la vie de l'homme dans le contexte de la vie de Dieu. C'est facile pour les individus d'imaginer qu'ils sont le centre de l'univers. C'est également facile pour les individus de déprimer en pensant qu'ils n'ont aucune valeur dans le grand ordre des choses. Nous pouvons facilement nous demander comment situer notre existence temporelle, notre courte vie, nos problèmes momentanés, nos plaisirs éphémères, nos activités. Comment situer ces choses tout compte fait. Chacun de nous est un être important, mais en même temps chacun de nous n'est qu'une goutte dans le vaste océan du temps et de l'espace. Mais avant de se plaindre, avant de se lamenter sur sa condition, avant de pleurer sur le temps qui passe, il faut situer correctement les êtres humains dans le temps. Et il faut voir la situation dans son contexte, dans son ensemble. Il faut prendre du recul. Et le psaume 90 sert notamment à expliquer la condition humaine sous l'angle du jugement saint de Dieu. C'est pourquoi Moïse, dans les deux premiers versets, nous explique qui nous sommes en nous expliquant qui est Dieu. D'accord ? Encore une fois, il faut situer les choses correctement. Si on veut comprendre l'homme, ça se fait par la théologie et non pas par l'anthropologie. Vous voyez ? Ce n'est pas juste en étudiant l'homme qu'on comprend l'homme. C'est en étudiant Dieu qu'on comprend mieux qui nous sommes. L'histoire de l'homme, c'est d'abord l'histoire de Dieu. Il faut la théologie avant l'anthropologie, le créateur avant la création, vous voyez? Et qu'est-ce que Moïse nous dit? Il nous dit que le Dieu éternel est notre refuge, notre domicile, finalement, l'endroit où nous habitons. Il est celui qui nous protège, qui nous guide en toutes circonstances. Notre courte vie fait partie de la longue histoire de la fidélité de Dieu envers son peuple. Et Moïse est bien positionné pour comprendre cette fidélité de Dieu. Il était lui-même témoin oculaire de la fidélité de Dieu. Il a vu de nombreux miracles. Il a vu la provision de Dieu pour son peuple. Il a remarqué que même si notre existence est courte, celle de Dieu est éternelle. Le récit commence par Dieu et il finit par Dieu. On peut mieux situer notre vie et nos préoccupations quand on comprend que nous ne sommes pas le personnage principal de l'histoire. On pourrait résumer les versets 1 et 2 de ce psaume comme ceci. Dieu, tu es Dieu, et nous, nous sommes au bénéfice de ce fait-là. Dieu, tu es Dieu, et nous, nous sommes là pour reconnaître ce fait-là. Pour prendre un exemple, quand on fait un film, il n'y a que quelques acteurs principaux, quelques personnages importants, n'est-ce pas? Mais il y a quand même beaucoup de figurants qui se tiennent en arrière-plan, souvent à distance, dans le flou. Ils servent à remplir la scène et à donner un peu d'authenticité à l'image. Ils sont importants aussi, mais leur rôle est différent et secondaire, finalement. Mais la vraie histoire se concentre sur l'acteur principal. Moi, je suis très fan de Arnold Schwarzenegger. Et récemment, j'ai regardé un de ses films qui était fait dans les années 80, qui s'appelle Commando. C'est pas très important les détails là, mais à un moment donné dans le film, Arnold se bat tout seul face à 200 ennemis. C'était génial. Et chacun de ces 200 figurants n'était là que pour une seule raison, à savoir pour être dégommé par Arnold, n'est-ce pas? Tous les accessoires, tout le décor n'existait que pour la seule raison d'être explosé et mis à feu par Arnold. Et avec un peu d'imagination, cette mauvaise illustration peut s'appliquer à ce texte. J'explique comment. Parce que finalement, dans le grand récit de l'histoire, nous sommes comme des figurants. Dieu est le personnage principal. C'est Dieu qui joue le rôle de la star dans le récit. Nous, nous sommes au bénéfice de son histoire. Nous sommes des figurants, mais des figurants aimés par Dieu. Des figurants qui ont le privilège de jouer un petit rôle dans le récit. Vous voyez? Moïse a raison dans son évaluation des choses. Dieu est éternel, c'est-à-dire indépendant du temps et de l'espace, toujours existant. C'est Dieu qui a fait les montagnes, selon ce texte. C'est Dieu qui a donné un commencement à la terre et au monde, comme nous dit le verset 2. Et ensuite, l'homme entre en scène pour un petit moment avant de s'évanouir. Nous sommes complètement dépendants de Dieu pour notre existence, pour notre salut, pour notre avenir. C'est une grâce, c'est un immense privilège de pouvoir participer à cette histoire. Et donc avant de pleurer sur le temps qui s'est écoulé, avant de craindre le temps qui est devant nous, avant de réagir d'une manière ou d'une autre, il faut comprendre que Dieu est le Dieu du temps et que notre existence est entre ses mains. Maintenant qu'on a établi l'importance de Dieu dans le récit, on peut commencer à comprendre la petitesse de l'homme, sa dépendance de Dieu. Le psalmiste constate que la mort fait partie de la vie. Il remarque que notre vie n'est qu'une veille de la nuit, c'est-à-dire une courte période de temps qui passe vite. La vie de l'homme est comparée dans ce texte à une journée qui commence au lever du soleil, qui se termine au coucher du soleil. La vie n'est pas plus durable qu'un brin d'herbe. La fragilité de la vie humaine est une évidence. J'ai été rappelé de cette fragilité cette semaine au décès d'un voisin à moi, dans notre immeuble, un vieux monsieur qui habitait dans notre allée, qui n'avait aucune famille. On l'a vu presque tous les jours avec son petit chien devant notre immeuble. On l'a rendu visite avant Noël pour lui donner quelques pâtisseries, quelques cookies que ma femme Amy a fait. Et je me disais, on a parlé en fait après, moi et Amy, il faut inviter ce monsieur peut-être la semaine prochaine, lundi ou mardi. Finalement, on n'a pas fait. On avait trop de choses à faire. On a dit, ok, jeudi, on va le faire jeudi, mais finalement, il est décédé le mercredi soir, dans la nuit. Et honnêtement, je regrette mes hésitations là. Mais c'est vrai que la vie est fragile. On a tous vu la fragilité de cette vie. Pour mieux comprendre ce que Moïse veut dire à propos de la condition humaine ici, il suffit de citer peut-être quelques commentaires. Et non, je ne pense pas à Jean Calvin. ou Martin Luther, ou Matthew Henry, je ne pense pas à Don Carson, ou Henri Blocher, ou des grands théologiens comme ça. Quand je parle de grands commentateurs de la condition humaine, je pense au groupe de heavy metal. Et j'explique pourquoi, parce que souvent dans leurs paroles, ils parlent des thèmes de la mort et la souffrance et des thèmes comme ça. Donc on commence par Metallica, dans leur chanson « Fade to Black ». Metallica rapporte les pensées de quelqu'un qui a perdu toute espérance lorsqu'il se compte qu'il va retourner à la poussière. C'est quelqu'un qui constate la courte durée de la vie, sans tenir compte de la nature éternelle des choses. Il déprime complètement en se disant « Ma vie semble diminuer. De jour en jour, elle dérive. Je suis perdu en moi-même. Je me fiche de tout. Je n'ai plus le goût de vivre. Il ne reste plus rien à vendre ni rien à gagner. J'ai hâte d'accueillir la fin. » Et ces paroles constituent la réponse naturelle à la fragilité de la vie. Ce sont des paroles honnêtes sur le destin de l'homme. Ces paroles constituent une lamentation. La vie fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir, comme l'herbe, elle sèche. La vie est courte, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vient après? Un autre grand commentateur de la vie humaine s'appelle Iron Maiden, un autre groupe metal, suit la pensée de Metallica sur ce sujet, mais en ajoutant l'aspect du jugement à la fin. Dans leur chanson « Judgment Day », juste après un solo de guitare incroyable, ils disent « Par tes œuvres, tu seras connu. Le temps dévoilera tes secrets. Avec chaque respiration, tu t'approches de la mort. Que diras-tu donc au jugement dernier ?» Alors, je crois que ça fait assez de citations de groupes de heavy metal pour aujourd'hui, mais ce qui est important à retenir ici, c'est ça. La vie est courte et la fin approche. La vie est courte et la fin approche. Mais en revanche, on n'est pas les victimes passives d'un univers muet et sans pensée. Notre destin est entre les mains d'un Dieu personnel. Vous voyez ? Oui, la mort est une réalité désagréable de la vie. Oui, la vie est un sablier collé à la planche. Oui, notre destin funeste est dû à la désobéissance de l'homme face à Dieu, ce qu'on appelle le péché. Oui, la vie passe vite. Et même les années que nous avançons sont pleines de misère. Malheureusement, non. On ne peut pas reculer. On ne peut pas rembobiner. Non, on ne peut pas nous sauver nous-mêmes de cette misère par nos propres efforts. Mais on peut se tourner vers le Dieu de la vie, dans la repentance. Notre Dieu est un Dieu qui juge avec justice nos crimes, mais qui nous montre aussi sa grâce, son amour. Les versets 3 à 10 nous offrent une bonne explication de pourquoi la vie est courte et pleine de souffrance. Moïse nous dit que la brièveté de la vie s'explique par la condition pécheresse des hommes, par la justice de Dieu face à cette condition. Dame nature ne suffit pas à expliquer pourquoi on meurt alors qu'on aspire à l'éternité. Dame nature n'explique pas pourquoi nous vivons parfois dans le regret du passé et dans la peur de l'avenir. Moïse avait le temps de bien réfléchir au péché, à ses conséquences, pendant qu'il parcourait le désert avec le peuple d'Israël. Pendant 40 ans, il avait le temps de réfléchir à la sainteté de Dieu et à ses propres péchés contre Dieu. Il avait le temps de réfléchir sur le jugement dernier. Et ici, Moïse nous rappelle que Dieu est le Dieu de la vie. Il nous rappelle que notre vie a une importance éternelle. C'est pourquoi Moïse prie ensuite, « Enseigne-nous ainsi à compter nos jours. » Enseigne-nous ainsi à compter nos jours. Autrement dit, aide-nous à mettre les choses dans leur bon contexte. Aide-nous à privilégier ce qui a une valeur éternelle. Aide-nous à nous humilier devant toi, Seigneur, afin de trouver la joie en toi pendant tous nos jours, que nos jours soient bons ou mauvais. Aide-nous à te glorifier en toutes circonstances, que les choses se passent bien ou qu'elles se passent mal. Aide-nous à nous investir dans des choses qui comptent. C'est ça l'idée dans ce texte. Au moment d'aborder une nouvelle année, la foi en Dieu, ça change tout. Ça change tout. Ça devrait changer notre perspective. Moïse prie à la fin de ce psaume pour que Dieu affermisse l'ouvrage des mains du peuple. Mais la seule raison pour laquelle ça c'est possible, c'est parce que l'œuvre de Dieu est déjà affermie et durable. Notre investissement dans cette vie compte parce que l'investissement de Dieu en nous compte. Vous voyez? La venue de Dieu, le Fils, dans ce monde, sa mort à la croix et sa résurrection d'entre les morts, c'est ce qui assure que notre vie compte. Ça veut dire que nous ne vivons pas juste pour mourir. Ça veut dire que si nous mettons notre foi en Jésus-Christ, la colère de Dieu s'est détournée de nous. Ça veut dire que chaque année de notre vie sert à rendre gloire à Dieu. Au musée des Beaux-Arts, ou au musée des Confluences ici à Lyon, on peut voir des vestiges, des objets historiques en bronze ou en pierre, qui ont été construits bien avant notre naissance, ou qui datent même de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Ce sont des ouvrages des mains des hommes, gravés littéralement dans la pierre. Mais ces ouvrages ne vont pas durer pour toujours. Il y a mieux que ça. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire aujourd'hui. Ça commence en mettant notre foi en Jésus-Christ. Mettons notre foi en Jésus-Christ, vivant dans l'obéissance de sa parole. C'est ça qui va porter des fruits qui dureront à jamais. Je voudrais vous encourager en ce premier jour du nouvel an, en vous rappelant que votre vie a une importance éternelle, une importance qui dure. La croix de Jésus-Christ, c'est ce qui assure que notre vie et le fruit qu'on porte en cette vie présente ont une valeur éternelle. La résurrection est la garantie de notre vie éternelle dans la présence de Dieu. Nous avons le privilège de participer au plan de Dieu, de croire en Jésus par la foi, d'enseigner à notre génération et à la prochaine génération tout ce que Dieu nous a transmis dans sa parole. Nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus important que ce que 2016 nous a offert. Nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus important de ce que 2017 nous offrira. À la veille de 2018, un an d'ici, j'espère que notre réaction ne sera pas « Et mince, j'ai un an de plus ». Mais plutôt, je suis reconnaissant pour l'occasion que j'ai eue de participer une année de plus au plan de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur de la vie, donne-nous vivre chaque jour pour toi, à trouver l'espoir, l'espérance, même face à la fragilité de la vie. Accorde-nous à regarder avec espérance vers la fin glorieuse que tu as mis en place avant la fondation du monde. Nous te remettons l'année qui est devant nous, Seigneur, pour que nous te suivions en humilité. Donne-nous ta grâce pour que nous puissions transmettre ton amour envers les autres. Au nom de Jésus. Amen.